Chapitre 3. Le lendemain, vers 4 heures, au moment où la compagnie était éparse dans les salons ou au billard, un domestique annonça aux habitants du pavillon Planat « Monsieur de Longueville ». Au nom du favori du vieux comte de Kergaouët, tout le monde jusqu'au joueur qui allait manquer une bille accourut autant pour observer la contenance de Mademoiselle de Fontaine que pour juger le phénix humain qui avait mérité une mention honorable au détriment de tant de rivaux. Une mise aussi élégante que simple, des manières pleines d'aisance, des formes polies, une voix douce et d'un timbre qui faisait vibrer les cordes du cœur, concilièrent à M. de Longueville la bienveillance de toute la famille. Il ne sembla pas étranger au luxe de la demeure du fastueux receveur général. Quoique sa conversation fût celle d'un homme du monde, chacun put facilement deviner qu'il avait reçu la plus brillante éducation et que ses connaissances étaient aussi solides qu'étendues. Il trouva si bien le mot propre dans une discussion assez légère, suscitée par le vieux marin sur les constructions navales, qu'une des femmes fit observer qu'il semblait être sorti de l'école polytechnique. « Je crois, madame, répondit-il, qu'on peut regarder comme un titre de gloire d'y être entré. » Malgré toutes les instances qui lui furent faites, il se refusa avec politesse mais avec fermeté au désir qu'on lui témoigna de le garder à dîner, et arrêta les observations des dames en disant qu'il était l'Hippocrate d'une jeune sœur dont la santé délicate exigeait beaucoup de soins. « Monsieur est sans doute médecin ?» demanda avec ironie une des belles sœurs d'Émilie. « Monsieur est sorti de l'école polytechnique, » répondit avec bonté Mademoiselle de Fontaine, dont la figure s'anima des teintes les plus riches au moment où elle apprit que la jeune fille du bal était la sœur de M. Longueville. « Mais, ma chère, on peut être médecin et avoir été à l'école polytechnique, n'est-ce pas, monsieur ?»« Oh, madame, rien ne s'y oppose, » répondit le jeune homme. Tous les yeux se portèrent sur Émilie, qui regardait alors avec une sorte de curiosité inquiète le séduisant inconnu. Elle respira plus librement quand il ajouta « non » avec un sans un sourire. « Je n'ai pas l'honneur d'être médecin, madame, et j'ai même renoncé à entrer dans le service des ponts et chaussées afin de conserver mon indépendance. »« Vous avez bien fait, » dit le comte. « Mais comment pouvez-vous regarder comme un honneur d'être médecin ?» ajouta le noble breton. « Oh, mon jeune ami, pour un homme comme vous !»« Monsieur le comte, je respecte infiniment toutes les professions qui ont un but d'utilité. »« Et nous sommes d'accord, vous respectez ces professions-là, j'imagine, comme un jeune homme respecte une douairière. » La visite de M. Longueville ne fut ni trop longue ni trop courte. Il se retira au moment où il s'aperçut qu'il avait plu à tout le monde et que la curiosité de chacun s'était éveillée sur son compte. « C'est un rusé, compère !» fit le comte en rentrant au salon après l'avoir reconduit. Mademoiselle de Fontaine, qui seule était dans le secret de cette visite, avait fait une toilette assez recherchée pour attirer les regards du jeune homme. Mais elle eut le petit chagrin de voir qu'il ne lui accorda pas autant d'attention qu'elle croyait en mériter. La famille fut assez surprise du silence dans lequel elle s'était renfermée. Émilie déployait ordinairement pour les nouveaux venus sa coquetterie, son babil spirituel et l'inépuisable éloquence de ses regards et de ses attitudes. Soit que la voix mélodieuse du jeune homme et l'attrait de ses manières l'eût charmée, qu'elle aimât sérieusement et que ce sentiment eût opéré en elle un changement, son maintien perdit toute affectation. Devenue simple et naturelle, elle dut sans doute paraître plus belle. Quelques-unes de ses sœurs et une vieille dame, amie de la famille, virent un raffinement de coquetterie dans cette conduite. Elles supposèrent que, jugeant le jeune homme digne d'elle, Émilie se proposait peut-être de ne montrer que lentement ses avantages, afin de l'éblouir tout à coup, au moment où elle lui aurait plu. Toutes les personnes de la famille étaient curieuses de savoir ce que cette capricieuse fille pensait de cet étranger. Mais lorsque, pendant le dîner, chacun prit plaisir à doter M. Longueville d'une qualité nouvelle, en prétendant l'avoir seule découverte, Mademoiselle de Fontaine resta muette pendant quelque temps. Un léger sarcasme de son oncle la réveilla tout à coup de son apathie. Elle dit d'une manière assez épigrammatique que cette perfection céleste devait couvrir quelques grands défauts et qu'elle se garderait bien de juger à la première vue un homme qui paraissait être si habile. Elle ajouta que ce qui plaisait ainsi à tout le monde ne plaisait à personne, et que le pire de tous les défauts était de n'en avoir aucun. Comme toutes les jeunes filles qui aiment, elle caressait l'espérance de pouvoir cacher son sentiment au fond de son cœur en donnant le change aux argus qui l'entouraient. Mais au bout d'une quinzaine de jours, il n'y eut pas un des membres de cette nombreuse famille qui ne fut initié dans ce petit secret domestique. À la troisième visite que fit M. de Longueville, Émilie crut y être pour beaucoup. Cette découverte lui causa un plaisir si enivrant qu'elle l'étonna quand elle put réfléchir. Il y avait là quelque chose de pénible pour son orgueil. Habituée à se faire le centre du monde, elle était obligée de reconnaître une force qui l'attirait hors d'elle-même. Elle essaya de se révolter, mais elle ne put chasser de son cœur la séduisante image du jeune homme. Puis vinrent bientôt des inquiétudes. En effet, deux qualités de M. Longueville, très contraires à la curiosité générale et surtout à celle de Mademoiselle de Fontaine, étaient une discrétion et une modestie inattendues. Il ne parlait jamais ni de lui, ni de ses occupations, ni de sa famille. Les finesses qu'Émilie semait dans sa conversation et les pièges qu'elle y tendait pour arracher à ce jeune homme des détails sur lui-même, il savait les déconcerter avec l'adresse d'un diplomate qui veut cacher ses secrets. Parlait-elle peinture ? M. Longueville répondait en connaisseur. Faisait-elle de la musique ? Le jeune homme prouvait sans fatuité qu'il était assez fort sur le piano. Un soir, il enchanta toute la compagnie en mariant sa voix délicieuse à celle d'Émilie dans un des plus beaux duos de Cimarosa. Mais, quand on essaya de s'informer s'il était artiste, il plaisanta avec tant de grâce qu'il ne laissa pas ses femmes si exercées dans l'art de deviner les sentiments la possibilité de découvrir à quelle sphère sociale il appartenait. Avec quelque courage que le vieil oncle jeta le grappin sur ce bâtiment, Longueville s'esquivait avec souplesse afin de se conserver le charme du mystère. Et il lui fut d'autant plus facile de rester le bel inconnu au pavillon Planat que la curiosité n'y excédait pas les bornes de la politesse. Émilie, tourmentée de cette réserve, espéra tirer meilleur parti de la sœur que du frère pour ces sortes de confidences. Secondée par son oncle, qui s'entendait aussi bien à cette manœuvre qu'à celle d'un bâtiment, elle essaya de mettre en scène le personnage jusqu'alors muet de Mademoiselle Clara Longueville. La société du pavillon manifesta bientôt le plus grand désir de connaître une si aimable personne et de lui procurer quelques distractions. Un bal sans cérémonie fut proposé et accepté. Les dames ne désespérèrent pas complètement de faire parler une jeune fille de 16 ans. Malgré ces petits nuages amoncelés par le soupçon et créés par la curiosité, une vive lumière pénétrait l'âme de Mademoiselle de Fontaine, qui jouissait délicieusement de l'existence en la rapportant à un autre qu'à elle. Elle commençait à concevoir les rapports sociaux. Soit que le bonheur nous rende meilleurs, soit qu'elle fût trop occupée pour tourmenter les autres, elle devint moins caustique, plus indulgente, plus douce. Le changement de son caractère enchanta sa famille étonnée. Peut-être, après tout, son égoïsme se métamorphosait-il en amour. Attendre l'arrivée de son timide et secret adorateur était une joie profonde. Sans qu'un seul mot de passion ait été prononcé entre eux, elle se savait aimée, et avec quel art ne se plaisait-elle pas à faire déployer au jeune inconnu les trésors de l'instruction qui se montra variée. Elle s'aperçut qu'elle aussi était observée avec soin. Et alors elle essaya de vaincre tous les défauts que son éducation avait laissé croître en elle. N'était-ce pas déjà un premier hommage rendu à l'amour et un reproche cruel qu'elle s'adressait à elle-même? Elle voulait plaire, elle enchanta. Elle aimait, elle fut idolâtrée. Sa famille, sachant qu'elle était gardée par son orgueil, lui donnait assez de liberté pour qu'elle pût savourer ces petites félicités enfantines qui donnent tant de charme et de violence aux premières amours. Plus d'une fois, le jeune homme et Mademoiselle de Fontaine se promenèrent seuls dans les allées de ce parc où la nature était parée comme une femme qui va au bal. Plus d'une fois, ils eurent de ces entretiens sans but ni physionomie dont les phrases les plus vides de sens sont celles qui cachent le plus de sentiments. Ils admirèrent souvent ensemble le soleil couchant et ses riches couleurs. Ils cueillirent des marguerites pour les effeuiller et chantèrent les duos les plus passionnés en se servant des notes trouvées par Pergolèse ou par Rossini comme de truchements fidèles pour exprimer leurs secrets. Le jour du bal arriva. Clara Longueville et son frère, que les valets s'obstinaient à décorer de la noble particule, en furent les héros. Pour la première fois de sa vie, Mademoiselle de Fontaine vit le triomphe d'une jeune fille avec plaisir. Elle prodigua sincèrement à Clara ses caresses gracieuses et ses petits soins que les femmes ne se rendent ordinairement entre elles que pour exciter la jalousie des hommes. Mais Émilie avait un but, elle voulait surprendre des secrets. La réserve de Mademoiselle Longueville fut au moins égale à celle de son frère, mais en sa qualité de fille, peut-être montra-t-elle plus de finesse et d'esprit que lui, car elle n'eut même pas l'air d'être discrète et sut tenir la conversation sur des sujets étrangers aux intérêts matériels, tout en y jetant un si grand charme que Mademoiselle de Fontaine en conçut une sorte d'envie et surnomma Clara la sirène. Quoique Émilie eût formé le dessein de faire causer Clara, ce fut Clara qui interrogea Émilie. Elle voulait la juger et fut jugée par elle. Elle se dépita souvent d'avoir laissé percer son caractère dans quelques réponses que lui arracha malicieusement Clara dont l'air modeste et candide éloignait tout soupçon de perfidie. Il y eut un moment où Mademoiselle de Fontaine parut fâchée d'avoir fait contre les roturiers une imprudente sortie provoquée par Clara. Mademoiselle, lui dit cette charmante créature, j'ai tant entendu parler de vous par Maximilien que j'avais le plus vif désir de vous connaître par attachement pour lui. Mais vouloir vous connaître, n'est-ce pas vouloir vous aimer? Non, ma chère Clara, j'avais peur de vous déplaire en parlant ainsi de ceux qui ne sont pas nobles. Oh, rassurez-vous, aujourd'hui ces sortes de discussions sont sans objet. Quant à moi, elles ne m'atteignent pas, je suis en dehors de la question. Quelque ambitieuse que fût cette réponse, Mademoiselle de Fontaine ressentit une joie profonde. Car, semblable à tous les gens passionnés, elle s'expliqua comme s'expliquent les oracles, dans le sens qui s'accordait avec ses désirs, et revint à la danse plus joyeuse que jamais, en regardant Longueville, dont les formes, dont l'élégance surpassaient peut-être celles de son type imaginaire. Elle ressentit une satisfaction de plus en songeant qu'il était noble. Ses yeux noirs scintillèrent, elle dansa avec tout le plaisir qu'on y trouve en présence de celui qu'on aime. Jamais les deux amants ne s'entendirent mieux qu'en ce moment, et plus d'une fois ils sentirent le bout de leurs doigts frémir et trembler lorsque les lois de la contredanse les mariaient. Ce joli couple atteignit le commencement de l'automne au milieu des fêtes et des plaisirs de la campagne, en se laissant doucement abandonner au courant du sentiment le plus doux de la vie, en le fortifiant par mille petits accidents que chacun peut imaginer. Les amours se ressemblent toujours en quelques points. L'un et l'autre, ils s'étudiaient autant que l'on peut s'étudier quand on aime. Enfin, jamais amourette n'a si promptement tourné en mariage d'inclination, disait le vieil oncle, qui suivait les deux jeunes gens de l'œil comme un naturaliste examine un insecte au microscope. Ce mot effraya monsieur et madame de Fontaine. Le vieux Vendéen cessa d'être aussi indifférent au mariage de sa fille qu'il avait naguère promis de l'être. Il alla chercher à Paris des renseignements et n'en trouva pas. Inquiet de ce mystère et ne sachant pas encore quel serait le résultat de l'enquête qu'il avait pris à un administrateur parisien de lui faire sur la famille Longueville, alors il crut devoir avertir sa fille de se conduire prudemment. L'observation paternelle fut reçue avec une feinte obéissance pleine d'ironie. Au moins, ma chère Émilie, si vous l'aimez, ne le lui avouez pas. Mon père, il est vrai que je l'aime, mais j'attendrai pour le lui dire que vous me le permettiez. Cependant, Émilie, songez que vous ignorez encore quelle est sa famille, son état. Si je l'ignore, je le veux bien. Mais mon père, vous avez souhaité me voir marié. Vous m'avez donné la liberté de faire un choix. Le mien est fait, irrévocablement. Que faut-il de plus? Il faut savoir, ma chère enfant, si celui que tu as choisi est fils d'un pair de France, répondit ironiquement le vénérable gentilhomme. Émilie resta un moment silencieuse. Elle releva bientôt la tête, regarda son père et lui dit avec une sorte d'inquiétude « Est-ce que les Longueville... Oh, ils sont éteints en la personne du vieux duc de Holstein-Limbourg qui a péri sur l'échafaud en 1793. C'était le dernier rejeton de la dernière branche cadette. Mais mon père, il y a de fort bonnes maisons issues de bâtards, d'histoires de France fourmis, de princes qui mettaient des barres à leurs écus. Tes idées ont bien changé, dit le vieux gentilhomme en souriant. Le lendemain était le dernier jour que la famille Fontaine dut passer au pavillon Planat. Émilie, que l'avis de son père avait fortement inquiétée, attendit avec une vive impatience l'heure à laquelle le jeune Longueville avait l'habitude de venir, afin d'obtenir de lui une explication. Elle sortit après le dîner et alla se promener seule dans le parc, en se dirigeant vers le bosquet aux confidences, où elle savait que l'empressé jeune homme la chercherait. Et tout en courant, elle songeait à la meilleure manière de surprendre sans se compromettre un secret si important. Chose assez difficile. Jusqu'à présent, aucun aveu direct n'avait sanctionné le sentiment qui l'unissait à cet inconnu. Elle avait secrètement joui, comme Maximilien, de la douceur d'un premier amour, mais aussi fiers l'un que l'autre, il semblait que chacun d'eux craignît d'avouer qu'il aimât. Maximilien Longueville, à qui Clara avait inspiré sur le caractère d'Émilie des soupçons assez fondés, se trouvait tour à tour emporté par la violence d'une passion de jeune homme et retenu par le désir de connaître et d'éprouver la femme à laquelle il devait confier son bonheur. Son amour ne l'avait pas empêché de reconnaître en Émilie les préjugés qui gâtaient ce jeune caractère. Mais il désirait savoir s'il était aimé d'elle avant de les combattre, car il ne voulait pas plus hasarder le sort de son amour que celui de sa vie. Il s'était donc constamment tenu dans un silence que ses regards, son attitude et ses moindres actions démentaient. De l'autre côté, la fierté naturelle à une jeune fille, encore augmentée chez Mademoiselle de Fontaine par la sotte vanité que lui donnaient sa naissance et sa beauté, l'empêchait d'aller au-devant d'une déclaration qu'une passion croissante lui persuadait quelquefois de solliciter. Aussi les deux amants avaient-ils instinctivement compris leur situation sans s'expliquer leur secret motif. Il est des moments de la vie où le vague plaît à de jeunes âmes. Par cela même que l'un et l'autre avaient trop tardé de parler, ils semblaient tous deux se faire un jeu cruel de leur attente. L'un cherchait à découvrir s'il était aimé par l'effort que coûterait un aveu à son orgueilleuse maîtresse, et l'autre espérait voir rompre à tout moment un trop respectueux silence. Assise sur un banc rustique, Émilie songeait aux événements qui venaient de se passer pendant ces 3 mois pleins d'enchantement. Les soupçons de son père étaient les dernières craintes qui pouvaient l'atteindre. Elle en fit même justice par 2 ou 3 fois de ces réflexions de jeune fille inexpérimentée qui lui semblèrent victorieuses. Avant tout, elle convint avec elle-même qu'il était impossible qu'elle se trompât. Durant toute la saison, elle n'avait pu apercevoir en Maximilien ni un seul geste, ni une seule parole qui indiquasse une origine ou des occupations communes. Bien mieux, sa manière de discuter décelait un homme occupé des hauts intérêts du pays. D'ailleurs, se dit-elle, un homme de bureau, un financier ou un commerçant n'aurait pas eu le loisir de rester une saison entière à me faire la cour au milieu des champs et des bois, en disposant son temps aussi libéralement qu'un noble qui a devant lui toute une vie libre de soins. Elle s'abandonnait au cours d'une méditation beaucoup plus intéressante pour elle que ses pensées préliminaires, quand un léger bruissement du feuillage lui annonça que depuis un moment Maximilien la contemplait, sans doute avec admiration. « Savez-vous que cela est fort mal de surprendre ainsi les jeunes filles ?» lui dit-elle en souriant. « Surtout lorsqu'elles sont occupées de leurs secrets, » répondit finement Maximilien. « Mais pourquoi n'aurais-je pas les miens? Vous avez bien les vôtres. « Ah, vous pensiez donc réellement à vos secrets ?» reprit-il en riant. « Oh non, je songeais aux vôtres, les miens, je les connais. »« Mais, » s'écria doucement le jeune homme, en saisissant le bras de Mademoiselle de Fontaine et le mettant sous le sien, « peut-être mes secrets sont-ils les vôtres et vos secrets les miens ?» Après avoir fait quelques pas, ils se trouvèrent sous un massif d'arbres que les couleurs du couchant enveloppaient comme d'un nuage rouge et brun. Cette magie naturelle imprima une sorte de solennité à ce moment. L'action vive et libre du jeune homme, et surtout l'agitation de son cœur bouillant, dont les pulsations précipitées parlaient au bras d'Émilie, la jetèrent dans une exaltation d'autant plus pénétrante qu'elle ne fut excitée que par les accidents les plus simples et les plus innocents. La réserve dans laquelle vivent les jeunes filles du grand monde donne une force incroyable aux explosions de leurs sentiments, et c'est un des plus grands dangers qui puisse les atteindre, puisque quand elles rencontrent un homme, un amant passionné, jamais les yeux d'Émilie et de Maximilien n'avait dit tant de ces choses qu'on n'ose pas dire. En proie à cette ivresse, ils oublient aisément les petites stipulations de l'orgueil et les froides considérations de la défiance. Ils ne purent même s'exprimer d'abord que par un serrement de main qui servit d'interprète à leurs joyeuses pensées. « Monsieur, j'ai une question à vous faire, » dit en tremblant et d'une voix émue Mademoiselle de Fontaine, après un long silence et après avoir fait quelques pas avec une certaine lenteur. Mais songez de grâce qu'elle m'est en quelque sorte commandée par la situation assez étrange où je me trouve vis-à-vis de ma famille. Une pause effrayante pour Émilie succéda à ces phrases qu'elle avait presque bégayées. Pendant le moment que dura le silence, cette jeune fille si fière n'osa soutenir le regard éclatant de celui qu'elle aimait, car elle avait un secret sentiment de la bassesse des mots suivants, qu'elle ajouta « Êtes-vous noble ?» Quand ces dernières paroles furent prononcées, elle aurait voulu être au fond d'un lac. Mademoiselle, répondit gravement Longueville, dont la vie, figure altérée, contracta une sorte de dignité sévère, je vous promets de répondre sans détour à cette demande, quand vous aurez répondu avec sincérité à celle que je vais vous faire. Il quitta le bras de la jeune fille, qui tout à coup se crut seule dans la vie, et lui dit « Dans quelle intention me questionnez-vous sur ma naissance ?» Elle demeura immobile, froide et muette. « Mademoiselle, reprit Maximilien, n'allons pas plus loin si nous ne nous comprenons pas. « Je vous aime, » ajouta-t-il d'un ton de voix profond et attendri. « Eh bien, » reprit-il d'un air joyeux, après avoir entendu l'exclamation de bonheur que ne put retenir la jeune fille, « pourquoi me demander si je suis noble ?» Parlerait-il ainsi s'il ne l'était pas ? S'écria une voix intérieure qu'Émilie crut sortir du fond de son cœur. Elle releva gracieusement la tête sembla puiser une nouvelle vie dans le regard du jeune homme et lui tendit le bras comme pour faire une nouvelle alliance. « Vous avez cru que je tenais beaucoup à des dignités ?» demanda-t-elle avec une finesse malicieuse. « Non, je n'ai pas de titre à offrir à ma femme, » répondit-il d'un air moitié gai, moitié sérieux. « Mais si je la prends dans un haut rang, et parmi celles que la fortune paternelle habitue au luxe et au plaisir de l'opulence, je sais à quoi ce choix m'oblige. L'amour donne tout, » ajouta-t-il avec gaieté, « mais aux amants seulement. Quant aux époux, oh, il leur faut un peu plus que le dôme du ciel et le tapis des prairies. »« Il est riche, » pensa-t-elle. « Quant au titre, peut-elle veut-il m'éprouver ? On lui aura dit que j'étais entiché de noblesse, que je voulais épouser qu'un pair de France. Mes bégueules de sœurs m'auront joué ce tour-là. Ben, « Je vous assure, monsieur, » dit-elle à haute voix, « que j'ai eu des idées bien exagérées sur la vie et le monde, mais aujourd'hui, » reprit-elle avec intention en le regardant d'une manière à le rendre fou, « je sais où sont pour une femme les véritables richesses. J'ai besoin de croire que vous parlez à cœur ouvert, » répondit-il avec une gravité douce. « Mais cet hiver, ma chère Émilie, dans moins de 2 mois peut-être, je serai fier de ce que je pourrai vous offrir si vous tenez aux jouissances de la fortune. Ce sera le seul secret que je garderai là, » dit-il en montrant son cœur, « car de sa réussite dépend mon bonheur, je n'ose dire le nôtre. Oh, mais dites, dites !» Ce fut au milieu des plus doux propos qu'ils revinrent à pas lents rejoindre la compagnie au salon. Jamais mademoiselle de Fontaine ne trouva son prétendu plus aimable ni plus spirituel. Ses formes sveltes, ses manières engageantes, lui semblèrent plus charmantes encore depuis une conversation qui venait en quelque sorte de lui confirmer la possession d'un cœur digne d'être envié par toutes les femmes. Ils chantèrent un duo italien avec tant d'expression que l'assemblée les applaudit avec enthousiasme. Leur adieu prit un accent de convention sous lequel ils cachèrent leur bonheur. Enfin, cette journée devint pour la jeune fille comme une chaîne qui la lia plus étroitement encore à la destinée de l'inconnu. La force et la dignité qu'ils venaient de déployer dans la scène où ils s'étaient révélés leurs sentiments avaient peut-être imposé à mademoiselle de Fontaine ce respect sans lequel il n'existe pas de véritable amour. Lorsqu'elle resta seule avec son père dans le salon, le vénérable Vendéen s'avança vers elle, lui prit affectueusement les mains et lui demanda si elle avait acquis quelque lumière sur la fortune et sur la famille de M. Longueville. « Oh oui, mon cher père, » répondit-elle, « je suis plus heureuse que je ne pouvais le désirer. Enfin, M. de Longueville est le seul homme que je veuille épouser. » « C'est bien, Émilie, » reprit le comte, « je sais ce qu'il me reste à faire. » « Mais connaîtriez-vous quelque obstacle ?» demanda-t-elle avec une véritable anxiété. « Mais, cher enfant, ce jeune homme est absolument inconnu. Mais, à moins que ce soit un malhonnête homme du moment où tu l'aimes, il m'est aussi cher qu'un fils. »« Un malhonnête homme ?» reprit Émilie. « Oh, je suis bien tranquille. Mon oncle qui vous l'a présenté peut vous répondre de lui. » Dites, cher oncle, a-t-il été flibustier, forban, corsaire ? Oh, je savais bien que j'allais me trouver là, s'écria le vieux marin en se réveillant. Il regarda dans le salon, mais sa nièce avait disparu comme un feu Saint-Elme, pour se servir de son expression habituelle. Eh bien, mon oncle, reprit monsieur de Fontaine, comment avez-vous pu nous cacher tout ce que vous saviez sur ce jeune homme? Vous avez cependant dû vous apercevoir de nos inquiétudes. Monsieur Longueville est-il de bonne famille? Oh, je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam, s'écria le comte de Kergarouët. Me fiant au tact de cette petite folle, je lui amenai son Saint-Preux par un moyen à moi connu. Je sais que ce garçon tire le pistolet admirablement, chasse très bien, joue merveilleusement au billard, aux échecs et au trictrac. Il fait des armes et monte à cheval comme feu le chevalier de Saint-Georges. Il a une érudition corsée relativement à nos vignobles. Il calcule comme barème, dessine, danse et chante bien. Eh diantre! Qu'avez-vous donc, vous autres? Si c'est pas là un gentilhomme parfait, montrez-moi un bourgeois qui sache tout cela. Trouvez-moi un homme qui vive aussi noblement que lui. Fait-il quelque chose? Compromet-il sa dignité à aller dans les bureaux, à se courber devant les parvenus que vous appelez des directeurs généraux? Il marche droit, c'est un homme. Mais au surplus, je viens de retrouver dans la poche de mon gilet la carte qu'il m'a donnée quand il croyait que je voulais lui couper la gorge. Pauvre innocent! La jeunesse d'aujourd'hui n'est guère rusée. Tenez, voici. Rue du Sentier, numéro 5, dit monsieur de Fontaine en cherchant à se rappeler parmi tous les renseignements qu'il avait obtenu, celui qui pouvait concerner le jeune inconnu. Que diable cela signifie-t-il? Messieurs Palma, Werbrust et compagnie, dont le principal commerce est celui des mousselines calicot et toiles peintes en gros, demeurent là. Bon, j'y suis. Longueville, député, a un intérêt dans leur maison. Oui, mais je ne connais à Longueville qu'un fils de 32 ans, qui ne ressemble pas du tout au nôtre et auquel il donne 50 000 livres de rente en mariage avant de lui faire épouser la fille d'un ministre. Il a envie d'être fait pair, tout comme un autre. Jamais je ne lui ai entendu parler de ce Maximilien. Y a-t-il une fille? Mais qu'est-ce que c'est cette Clara? Au surplus, permis à plus d'un intrigant de s'appeler Longueville. Mais la maison Palma, Werbrust et compagnie n'est-elle pas à moitié ruinée par une spéculation au Mexique ou aux Indes? Oh, j'éclaircirai tout cela. Mais tu parles tout seul comme si tu étais sur un théâtre, et tu me parais me compter pour zéro, dit tout à coup le vieux marin. Tu sais donc pas que si le gentilhomme, j'ai plus d'un sac dans mes écoutilles pour parer à son défaut de fortune. Quant à cela, il est fils de Longueville, il a besoin de rien. Mais, dit monsieur de Fontaine en agitant la tête de droite à gauche, son père n'a même pas acheté de savonnette, un vilain. Avant la Révolution, il était procureur. Et le de ce qu'il a appris depuis la restauration lui appartient tout autant que la moitié de sa fortune. Bon, heureux, ceux dont les pères ont été pendus! S'écria gaiement le marin. Trois ou quatre jours après cette mémorable journée, et dans une de ces belles matinées du mois de novembre qui font voir aux Parisiens leurs boulevards nettoyés soudain par le froid piquant d'une première gelée, Mademoiselle de Fontaine, parée d'une fourrure nouvelle qu'elle voulait mettre à la mode, était sortie avec deux de ses belles sœurs, sur lesquelles elle avait jadis décoché le plus d'épigrammes. Ces trois femmes étaient bien moins invitées à cette promenade parisienne par l'envie d'essayer une voiture très élégante et des robes qui devaient donner le ton aux modes de l'hiver que par le désir de voir une pèlerine qu'une de leurs amies avait remarqué dans un riche magasin de lingerie situé au coin de la rue de la Paix. Quand les trois dames furent entrées dans la boutique, Madame la baronne de Fontaine tira Émilie par la manche et lui montra Maximilien Longueville assis dans le comptoir et occupé à rendre avec une grâce mercantile la monnaie d'une pièce d'or à la lingère avec laquelle il semblait en conférence. Le bel inconnu tenait à la main quelques échantillons qui ne laissaient aucun doute sur son honorable profession. Sans qu'on pût s'en apercevoir, Émilie fut saisie d'un frisson glacial. Cependant, grâce au savoir-vivre de la bonne compagnie, elle dissimula parfaitement la rage qu'elle avait dans le cœur et répondit à sa sœur « je le savais », dont la richesse d'intonation et l'accent inimitable eussent fait envie à la plus célèbre actrice de ce temps. Elle s'avança vers le comptoir. Longueville leva la tête, mit les échantillons dans sa poche avec grâce et avec un sang-froid désespérant, salua Mademoiselle de Fontaine et s'approcha d'elle en lui jetant un regard pénétrant. « Mademoiselle, dit-il à la lingère qu'il avait suivi d'un air très inquiet, j'enverrai régler ce compte. Ma maison le veut ainsi. Mais tenez, ajouta-t-il à l'oreille de la jeune femme en lui remettant un billet de 1 000 francs, prenez, ce sera une affaire entre nous. Vous me pardonnerez, j'espère, mademoiselle, dit-il en se retournant vers Émilie, vous aurez la bonté d'excuser la tyrannie qu'exercent les affaires. Mais il me semble, monsieur, que cela m'est fort indifférent, répondit Mademoiselle de Fontaine en le regardant avec une assurance et un air d'insouciance moqueuse qui pouvait faire croire qu'elle le voyait pour la première fois. Parlez-vous sérieusement ? Demanda Maximilien d'une voix entrecoupée. Émilie lui avait tourné le dos avec une incroyable impertinence. Ce peu de mots prononcés à voix basse avaient échappé à la curiosité des deux belles-sœurs. Quand, après avoir pris la pèlerine, les trois dames furent remontées en voiture, Émilie, qui se trouvait assise sur le devant, ne put s'empêcher d'embrasser par son dernier regard la profondeur de cette odieuse boutique où elle vit Maximilien debout et les bras croisés dans l'attitude d'un homme supérieur au malheur qu'il atteignait si subitement. Leurs yeux se rencontrèrent et se lancèrent deux regards implacables. Chacun d'eux espéra qu'il blessait cruellement le cœur qu'il aimait. En un moment, tous deux se trouvèrent aussi loin l'un de l'autre que s'ils eussent été l'un à la Chine et l'autre au Groenland. La vanité n'a-t-elle pas un souffle qui dessèche tout ? En proie au plus violent combat qui puisse agiter le cœur d'une jeune fille, Mademoiselle de Fontaine recueillit la plus ample moisson de douleur que jamais les préjugés et les petitesses avaient semé dans une âme humaine. Son visage, frais et velouté naguère, était sillonné de tons jaunes, de taches rouges, et parfois les teintes blanches de ses joues verdissaient soudain. Dans l'espoir de dérober son trouble à ses sœurs, elle leur montrait en riant, ou un passant, ou une toilette ridicule. Mais ce rire était convulsif. Elle se sentait plus vivement blessée de la compassion silencieuse de ses sœurs que des épigrammes par lesquelles elles auraient pu se venger. Elle employa tout son esprit à les entraîner dans une conversation où elle essaya d'exhaler sa colère par des paradoxes insensés, en accablant les négociants des injures les plus piquantes et d'épigrammes de mauvais ton. En rentrant, elle fut saisie d'une fièvre dont le caractère eut d'abord quelque chose de dangereux. Au bout d'un mois, les soins de ses parents, ceux du médecin, la rendirent aux vœux de sa famille. Chacun espéra que cette leçon pourrait servir à dompter le caractère d'Émilie, qui reprit insensiblement ses anciennes habitudes et s'élança de nouveau dans le monde. Elle prétendit qu'il n'y avait pas de honte à se tromper. Si, comme son père, elle avait quelque influence à la chambre, disait-elle, elle provoquerait une loi pour obtenir que les commerçants, surtout les marchands de calicot, fussent marqués au front comme les moutons du Berry, jusqu'à la troisième génération. Elle voulait que les nobles eussent seul le droit de porter ses anciens habits français qui allaient si bien aux courtisans de Louis XV. C'était peut-être, à l'entendre, un malheur pour la monarchie qu'il n'y eut aucune différence entre un marchand et un pair de France. Mille autres plaisanteries, faciles à deviner, se succédaient rapidement quand un incident imprévu la mettait sur ce sujet. Mais ceux qui aimaient Émilie remarquaient à travers ses railleries une teinte de mélancolie qui leur fit croire que Maximilien Longueville régnait toujours au fond de ce cœur inexplicable. Parfois, elle devenait douce comme pendant la saison fugitive qui vit naître son amour, et parfois aussi elle se montrait plus insupportable qu'elle ne l'avait jamais été. Chacun excusait en silence les inégalités d'une humeur qui prenait sa source dans une souffrance à la fois secrète et connue. Le comte de Kergarouët obtint un peu d'empire sur elle, grâce à un surcroît de prodigalité, genre de consolation qui marque rarement son effet sur les jeunes parisiennes. La première fois que Mademoiselle de Fontaine alla au bal, ce fut chez l'ambassadeur de Naples. Au moment où elle prit place au plus brillant des quadrilles, elle aperçut à quelques pas d'elle Longueville, qui fit un léger signe de tête à son danseur. « Ce jeune homme est un de vos amis ?» demanda-t-elle à son cavalier d'un air de dédain. « Oui, c'est mon frère, » répondit-il. Émilie ne put s'empêcher de tressaillir. « Ah !» reprit-il d'un ton d'enthousiasme, « c'est bien la plus belle âme qui soit au monde. »« Savez-vous mon nom ?» lui demanda Émilie en l'interrompant avec vivacité. « Non, mademoiselle, c'est un crime, je l'avoue, de ne pas avoir retenu un nom qui est sur toutes les lèvres, je devrais dire dans tous les cœurs. Mais j'ai une excuse valable, j'arrive d'Allemagne. » Mon ambassadeur, qui est à Paris en congé, m'a envoyé ce soir ici pour servir de chaperon à son aimable femme, que vous pouvez voir là-bas dans un coin. Un vrai masque tragique, dit Émilie, après avoir examiné l'ambassadrice. Voilà cependant sa figure de bal, reprit en riant le jeune homme. Faudra bien que je la fasse danser. Aussi ai-je voulu avoir une compensation. Mademoiselle de Fontaine s'inclina. « J'ai été bien surpris, » dit le babillard secrétaire d'ambassade, « en continuant de trouver mon frère ici. En arrivant de Vienne, j'ai appris que le pauvre garçon était malade et au lit. Je comptais bien le voir avant d'aller au bal, mais la politique ne nous laisse pas toujours le loisir d'avoir des affections de famille. La padrona de la casa ne m'a pas permis de monter chez mon pauvre Maximilien. » « Monsieur, votre frère n'est pas comme vous dans la diplomatie ?» dit Émilie. « Non, » dit le secrétaire en soupirant, « le pauvre garçon s'est sacrifié pour moi. Lui et ma sœur Clara ont renoncé à la fortune de mon père afin qu'il pût réunir sur ma tête un majorat. Mon père rêve la pairie comme tous ceux qui votent pour le ministère. Il a la promesse d'être nommé. » ajouta-t-il à voix basse. « Après avoir réuni quelques capitaux, alors mon frère s'est alors associé à une maison de banque et je sais qu'il vient de faire avec le Brésil une spéculation qui peut le rendre millionnaire. Vous me voyez tout joyeux d'avoir contribué par mes relations diplomatiques au succès. J'attends même avec impatience une dépêche de la délégation brésilienne qui sera de nature à lui dérider le front. Comment le trouvez-vous? Mais la figure de monsieur votre frère ne me semble pas être celle d'un homme occupé d'argent. Le jeune diplomate scruta par un seul regard la figure en apparence calme de sa danseuse. Oh, comment, dit-il en souriant, les demoiselles devinent donc aussi les pensées d'amour à travers les fronts muets? Monsieur, votre frère est amoureux? Demanda-t-elle en laissant échapper un geste de curiosité. Oui, ma sœur Clara, pour laquelle il a des soins maternels, m'a écrit qu'il s'était amouraché cet été d'une fort jolie personne, mais depuis je n'ai pas eu de nouvelles de ses amours. Croiriez-vous que le pauvre garçon se levait à 5 heures du matin et allait expédier ses affaires avant de pouvoir se trouver à 4 heures à la campagne de la Belle? Aussi a-t-il imbibé un charbon cheval de race que je lui avais envoyé. Bon, pardonnez-moi mon babil, mademoiselle, j'arrive d'Allemagne. Depuis un an, j'ai pas entendu parler correctement le français. Alors, je suis sevré de visage français et rassasié d'allemand, si bien que dans ma rage patriotique, je parlerai, je crois, au chimère d'un candélabre parisien. Puis, si je cause avec un abandon peu convenable chez un diplomate, la faute en est à vous, mademoiselle. N'est-ce pas vous qui m'avez montré mon frère? Quand il est question de lui, je suis intarissable. Je voudrais pouvoir dire à la terre entière combien il est bon et généreux. Il ne s'agissait de rien moins que de 100 000 livres de rente que rapporte la terre de Longueville. Si mademoiselle de Fontaine obtint ces révélations importantes, elle les dut en partie à l'adresse avec laquelle elle sut interroger son confiant cavalier au moment où elle apprit qu'il était le frère de son amant dédaigné. Est-ce que vous avez pu, sans quelque peine, voir monsieur votre frère vendant des moussines et des calicots? Demanda Émilie après avoir accompli la troisième figure de la contredanse. Mais d'où savez-vous cela? Lui demanda le diplomate. Dieu merci! Tout en débitant un flux de paroles, j'ai déjà l'art de ne dire que ce que je veux, ainsi que tous les apprentis diplomates de ma connaissance. Mais vous me l'avez dit, je vous assure. Monsieur de Longueville regarda Mademoiselle de Fontaine avec un étonnement plein de perspicacité. Un soupçon entra dans son âme. Il interrogea successivement les yeux de son frère et de sa danseuse. Il devina tout, pressa ses mains l'une contre l'autre, leva les yeux au plafond, se mit à rire et dit: Oh, je ne suis qu'un sot! Vous êtes la plus belle personne du bal, mon frère vous regarde à la dérobée. Il danse malgré la fièvre, et vous feignez de ne pas le voir. Faites son bonheur, dit-il, en la reconduisant auprès de son vieil oncle. Je n'en serai pas jaloux, mais je tressaillerai toujours un peu en vous nommant ma sœur. Cependant, les deux amants devaient être aussi inexorables l'un que l'autre pour eux-mêmes. Vers les 2 heures du matin, l'on servit un ambigu dans une immense galerie où, pour laisser les personnes d'une même coterie libres de se réunir, les tables avaient été disposées comme elles le sont chez les restaurateurs. Par un de ces hasards qui arrivent toujours aux amants, Mademoiselle de Fontaine se trouva placée à une table voisine de celle autour de laquelle se mirent les personnes les plus distinguées, et Maximilien faisait partie de ce groupe. Émilie, qui prêta une oreille attentive au discours tenu par ses voisins, put entendre une de ces conversations qui s'établissent si facilement entre les jeunes femmes et les jeunes gens qui ont les grâces et la tournure de Maximilien Longueville. L'interlocutrice du jeune banquier était une duchesse napolitaine dont les yeux lançaient des éclairs et dont la peau blanche avait l'éclat du satin. L'intimité que le jeune Longueville affectait d'avoir avec elle blessa d'autant plus Mademoiselle de Fontaine qu'elle venait de rendre à son amant 20 fois plus de tendresse qu'elle ne lui en portait jadis. Oh, monsieur, dans mon pays, le véritable amour, c'est faire toute espèce de sacrifice, disait la duchesse en minaudant. Vous êtes plus passionnée que le sont les Françaises, dit Maximilien, dont le regard enflammé tomba sur Émilie. Elles sont tout vanité. Oh, monsieur, reprit vivement la jeune fille, n'est-ce pas une mauvaise action que de calomnier sa patrie? Le dévouement est de tous les pays. Croyez-vous, mademoiselle, reprit l'italienne avec un sourire sardonique, qu'une parisienne soit capable de suivre son amant partout? Ah, entendons-nous, madame. On va dans un désert y habiter une tente, on ne va pas s'asseoir dans une boutique. Elle acheva sa pensée en laissant échapper un geste de dédain. Ainsi, l'influence exercée sur Émilie par sa funeste éducation tua 2 fois son bonheur naissant et lui fit manquer son existence. La froideur apparente de Maximilien et le sourire d'une femme lui arrachèrent un de ces sarcasmes dont les perfides jouissances la séduisaient toujours. Mademoiselle, lui dit à voix basse Longueville, à la faveur du bruit que firent les femmes en se levant de table, personne ne formera pour votre bonheur des vœux plus ardents que ne le seront les miens. Permettez-moi de vous donner cette assurance en prenant congé de vous. Dans quelques jours, je partirai pour l'Italie. Avec une duchesse, sans doute. Non, mademoiselle. Mais avec une maladie mortelle, peut-être. N'est-ce pas une chimère? Demanda Émilie en lui lançant un regard inquiet. Non, dit-il, il a des blessures qui ne se cicatrisent jamais. Vous ne partirez pas? Dit l'impérieuse jeune fille en souriant. Je partirai, répondit gravement Maximilien. Vous me trouverez mariée au retour, je vous en préviens, dit-elle avec coquetterie. Je le souhaite. L'impertinent, s'écria-t-elle, se venge-t-il assez cruellement? 15 jours après, Maximilien Longueville partit avec sa sœur Clara pour les chaudes et poétiques contrées de la belle Italie, laissant Mademoiselle de Fontaine en proie aux plus violents regrets. Le jeune secrétaire d'ambassade épousa la querelle de son frère et sut tirer une vengeance éclatante des dédains d'Émilie en publiant les motifs de la rupture des deux amants. Il rendit avec usure à sa danseuse les sarcasmes qu'elle avait jadis lancés sur Maximilien et fit souvent sourire plus d'une excellence en peignant la belle ennemie des comptoirs, l'Amazone qui prêchait une croisade contre les banquiers, la jeune fille dont l'amour s'était évaporé devant un demi-tiers de mousseline. Le comte de Fontaine fut obligé d'user de son crédit pour faire obtenir à Auguste Longueville une mission en Russie, afin de soustraire sa fille au ridicule que ce jeune et dangereux persécuteur versait sur elle à pleine main. Bientôt, le ministère, obligé de lever une conscription de père pour soutenir les opinions aristocratiques qui chancelaient dans la chambre, à la voix d'un illustre écrivain, nomma M. Giraudin de Longueville, pair de France et vicomte. M. de Fontaine obtint aussi la pairie, récompense due autant à sa fidélité pendant les mauvais jours qu'à son nom qui manquait à la chambre héréditaire. Vers cette époque, Émilie, devenue majeure, fit sans doute de sérieuses réflexions sur la vie, car elle changea sensiblement de ton et de manière. Au lieu de s'exercer à dire des méchancetés à son oncle, elle lui prodigua les soins les plus affectueux, elle lui apportait sa béquille avec une persévérance de tendresse qui faisait rire les plaisants. Elle lui offrait le bras, allait dans sa voiture et l'accompagnait dans toutes ses promenades. Elle lui persuada même qu'elle n'était point accommodée par l'odeur de la pipe et lui disait sa chère quotidienne au milieu des bouffées de tabac que le malicieux marin lui envoyait à dessein. Elle a pris le piquet pour faire la partie du vieux comte. Enfin, cette jeune personne si fantasque écoutait avec attention les récits que son oncle recommençait périodiquement du combat de la belle poule, des manœuvres de la ville de Paris, de la première expédition de M. de Suffren ou de la bataille d'Aboukir. Quoique le vieux marin eût souvent dit qu'il connaissait trop sa longitude et sa latitude pour se laisser capturer par une jeune corvette, un beau matin, les salons de Paris apprirent que Mademoiselle de Fontaine avait épousé le comte de Kergarouët. La jeune comtesse donna des fêtes splendides pour s'étourdir, mais elle trouva sans doute le néant au fond de ce tourbillon. Le luxe cachait imparfaitement le vide et le malheur de son âme souffrante. La plupart du temps, malgré les éclats d'une gaieté feinte, sa belle figure exprimait une sourde mélancolie. Émilie paraissait d'ailleurs pleine d'attention et d'égard pour son vieux mari, qui souvent, s'en allant dans son appartement le soir, au bruit d'un joyeux orchestre, disait qu'il ne se connaissait plus et qu'il ne croyait pas qu'à l'âge de 72 ans, il dut s'embarquer comme pilote sur la belle Émilie, après avoir déjà fait 20 ans de galère conjugale. La conduite de la comtesse était empreinte d'une telle sévérité que la critique la plus clairvoyante n'avait rien à y reprendre. Les observateurs pensaient que le vice-amiral s'était réservé le droit de disposer de sa fortune pour enchaîner plus fortement sa femme. Cette supposition faisait injure à l'oncle et à la nièce. L'attitude des deux époux fut d'ailleurs si savamment calculée qu'il devint presque impossible aux jeunes gens intéressés à deviner le secret de ce ménage de savoir si le vieux comte traitait sa femme en époux ou en père. On lui entendait dire souvent qu'il avait recueilli sa nièce comme une naufragée et que jadis il n'avait jamais abusé de l'hospitalité quand il lui arrivait de sauver un ennemi de la fureur des orages. Quoique la comtesse aspirât à régner sur Paris et qu'elle essayât de marcher de pair avec mesdames les duchesses de Maufrigneuse, de Chaulieu, les marquises d'Espard et d'Aiglemont, les comtesses Ferraud, de Montcornet, de Restaud, Madame de Camp ou Mademoiselle des Touches, elle ne céda point à l'amour du jeune vicomte de Portenduère, qui fit d'elle son idole. 2 ans après son mariage, dans une des antiques salons du faubourg Saint-Germain, où l'on admirait son caractère digne des anciens temps, Émilie entendit annoncer Monsieur le vicomte de Longueville. Et dans le coin du salon où elle faisait le piquet de l'évêque de Persépolis, son émotion ne put être remarquée de personne. En tournant la tête, elle avait vu entrer son ancien prétendu dans tout l'éclat de la jeunesse. La mort de son père et celle de son frère tué par l'inclémence du climat de Pétersbourg, avait posé sur la tête de Maximilien les plumes héréditaires du chapeau de la pairie. Sa fortune égalait ses connaissances et son mérite. La veille même, sa jeune et bouillante éloquence avait éclairé l'assemblée. En ce moment, il apparaissait à la triste comtesse, libre et parée de tous les dons qu'elle avait rêvés pour son idole. Toutes les mères qui avaient des filles à marier faisaient de coquettes avances à un jeune homme doué des vertus qu'on lui supposait en admirant sa grâce. Mais mieux que tout autre, Émilie savait qu'il possédait cette fermeté de caractère dans laquelle les femmes prudentes voient un gage de bonheur. Elle jeta les yeux sur l'amiral, qui, selon son expression familière, paraissait devoir tenir encore longtemps sur son bord, et maudit les erreurs de son enfance. En ce moment, M. de Persépolis mit avec sa grâce épiscopale : « Ma belle dame, vous avez écarté le roi de cœur, j'ai gagné, mais ne regrettez pas votre argent, je le réserve pour mes petits séminaires. » Paris, décembre 1829.